Radio Prague, les informations. Bonjour. Suite à une affaire de corruption, le ministre du Travail et des Affaires sociales a démissionné de ses fonctions. Le gouvernement a adopté le projet de loi censé simplifier l'obtention de la nationalité tchèque. Et puis enfin, le ministre des Affaires étrangères sera en visite en France ce jeudi. Jaromír Drábek a annoncé ce mercredi qu'il allait démissionner de ses fonctions de ministre du Travail et des Affaires sociales. Sa démission sera effective à la fin octobre. Jaromír Drábek sera ainsi le 10e ministre contraint de quitter prématurément le gouvernement. Cette décision est la conséquence de l'affaire de corruption dans laquelle est notamment impliqué le vice-ministre Vladimír Šiška, proche collaborateur de Jaromír Drábek depuis de nombreuses années. Vladimír Šiška a été placé en détention provisoire ce mercredi par le tribunal du 2e arrondissement de Prague, également arrêté lundi matin dans le cadre de la même affaire. Milan Hoyer, directeur du département informatique du ministère, a lui été remis en liberté. Les deux hommes sont accusés par la police anticorruption dans une affaire de commande publique. Si leur culpabilité est reconnue, ils risquent jusqu'à 6 ans de prison. Le gouvernement a adopté ce mercredi le projet de loi sur la nationalité tchèque présenté par le ministère de l'Intérieur. Cet amendement modifie les principes et les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Selon les organisations non gouvernementales travaillant avec les immigrés, si ce texte rapproche la législation tchèque des standards modernes, les conditions d'obtention restent toutefois trop exigeantes pour les étrangers vivant en République tchèque. Elles seront toutefois plus simples pour les ressortissants des pays de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de travail en France ce jeudi à Paris. Karel Schwarzenberg sera notamment reçu par son homologue Laurent Fabius. Le chef de la diplomatie tchèque se rendra également au cercle de l'Union interalliée. Avant cela, il sera passé au cimetière du Père Lachaise où il aura déposé une gerbe sur la tombe du peintre František Kupka et au pied du monument des légionnaires tchécoslovaques. Le premier groupe de travail pour la construction du 5e réacteur de la centrale nucléaire de Dukovany devrait se réunir dans le courant du premier semestre de l'année prochaine. Selon la conception énergétique préparée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, la mise en service de ce nouveau réacteur de la 2e centrale nucléaire du pays est prévue pour 2035. Les travaux pourraient être entamés en 2030. D'ici là, les 4 réacteurs actuels devraient rester en fonction. L'information a été communiquée par le ministre Martin Kuba, situé en Moravie du Sud et exploité par la société nationale tchèque. La centrale de Dukovany, la plus ancienne existante en République tchèque, est en service depuis 27 ans. Elle, selon les autorités régionales, son éventuelle fermeture entraînerait la perte de plus d'un millier d'emplois. Victime d'importantes pertes en raison de la sécheresse qui a touché notamment la Moravie du Sud, les agriculteurs réclament au gouvernement une compensation d'au moins 750 millions de couronnes, soit 30 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé le président de la Chambre agraire de Moravie du Sud, une des principales régions agricoles tchèques. Le volume des moissons cette année a été inférieur de 65% à celui de 2011, année inversement excellente. On termine avec un mot de météo. Après une journée de mercredi largement ensoleillée, les nuages sont de retour sur une grande partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des František. Quelques averses sont prévues, notamment dans le centre et le nord du pays. La moitié est étant elle plus épargnée, les températures varient entre 15 et 22 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Anna Kubichta. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Une nouvelle campagne cherche à sensibiliser le grand public sur les maltraitances et les violences à l'encontre des personnes âgées. Les détails dans quelques minutes. C'est dimanche que le Théâtre National de Prague présentait la première de l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy qui entre par la même occasion au répertoire. Entretien avec le chef d'orchestre français Jean-Luc Tingot qui signe la direction musicale de ce drame lyrique. Bonne écoute de ce programme. The Le 1er octobre était la journée internationale des seniors, l'occasion de parler de cette frange de la société de plus en plus nombreuse en raison du vieillissement de la population, des personnes avec des besoins et des problèmes bien spécifiques qui souffrent souvent de solitude ou pire, sont victimes de violences. Une nouvelle campagne de sensibilisation tire la sonnette d'alarme en République tchèque. 20% des personnes âgées de plus de 60 ans sont victimes de violences et de maltraitances. Longtemps ignorées, le phénomène de mauvais traitement vis-à-vis des seniors n'en est pas moins un réel problème. Si les seniors tendent de plus en plus à être des membres toujours pleinement actifs de la société, cette réalité ne doit pas faire oublier ceux qui vivent leur vieillesse dans la solitude, la déprime, qui mène parfois à des envies suicidaires ou encore dans la violence. C'est pourquoi depuis 22 ans, l'association Gévote Devalessat, Vie 90, anime une ligne téléphonique d'urgence qui assiste les personnes en détresse. Jana Kosažová, responsable du numéro d'urgence.
Nous avons à peu près les mêmes chiffres cette année que pour 2011. En termes de violence et d'abus de faiblesse vis-à-vis des seniors, nous supposons que cette année, nous aurons à nouveau 300 appels sur notre ligne téléphonique.
Des violences diverses qui font l'objet à l'heure actuelle d'une campagne de sensibilisation en République tchèque. L'association espère que celle-ci va inciter les seniors à parler davantage de leur situation et susciter un débat de société, car les cas de maltraitance sont divers, comme le souligne encore Jana Kosažová.
Une fois de plus, nous constatons l'importance des violences intergénérationnelles. Ensuite, il y a des mauvais traitements au sein du couple. Il peut s'agir de violences psychologiques, physiques, mais également d'ordre économique. Ce sont les enfants et les petits-enfants qui sont le plus souvent à l'origine de ces maltraitances, mais aussi les partenaires de vie.
Si le phénomène est important, il va aussi de pair avec le vieillissement de la population, la présence plus importante de personnes âgées, parfois malheureusement considérées comme un poids par leur entourage. Pourtant, les seniors ont clairement un rôle à jouer dans la société, comme le prouvent des projets d'éducation intergénérationnelle mis en place en France notamment, tels que le concept Ensemble Demain que nous vous avons présenté récemment sur Radio Prague. Rappel de la situation en République tchèque avec Jan Lorman, directeur de l'association Gévote Devadesat.
La durée de vie a clairement augmenté dans le pays. Les hommes nés en 1930 avaient une espérance de vie de 53 ans et les femmes de 57 ans. Une personne née en 2003 devrait vivre en moyenne jusqu'à 72 et 78 ans. L'espérance de vie a augmenté de 20 ans. D'un côté, on peut se dire que nous n'allons pas avoir les moyens de subvenir aux besoins de ces personnes, en termes de santé notamment. D'un autre, on peut voir cela comme une chance de profiter de ces années en plus. C'est notre vision à l'association, nous sommes en meilleure santé et nous pouvons être actifs, il nous faut juste des moyens, ce qui est également du ressort du politique.
À l'autre bout du fil de la ligne téléphonique d'urgence, une dizaine de personnes sont là pour écouter les besoins de réconfort et de partage des personnes âgées, mais aussi souvent leur désarroi. Le 800-557-157 fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dimanche 30 septembre a eu lieu au Théâtre National de Prague la première de l'opéra Péléas et Mélisande, chef-d'œuvre de Claude Debussy et de Maurice Maeterlinck, qui lors de sa première mondiale en 1902 avait déclenché un scandale à l'Opéra Comique de Paris et marqué un tournant dans l'évolution de la musique. À Prague, l'œuvre a été mise en scène par Rock, directeur artistique actuel de l'Opéra du Théâtre National. L'orchestre et les solistes du premier théâtre du pays étaient placés sous la direction du jeune chef français Jean-Luc Tingot. Ce dernier a répondu à quelques questions de Václav Richter. On l'écoute.
Qu'est-ce que l'opéra Péléas et Mélisande représente pour vous? Est-ce un drame lyrique, un poème symboliste, un mythe ou autre chose?
Oui, c'est vraiment un drame lyrique parce que la musicalité du texte a vraiment été mise en musique par Debussy. C'est-à-dire qu'il a trouvé dans ce texte une musicalité qui correspondait à sa sensibilité. Et il a donné à ce drame lyrique vraiment une très grande portée, une portée symphonique également.
Dans quelle mesure la mise en scène minimaliste de Rock convient-elle à votre propre conception de Pelléas? Avez-vous trouvé facilement un langage commun avec le metteur en scène?
Ah oui, on s'est très bien entendu, parce que tous les deux, nous voulions aller dans la même direction, qui était une sorte de direction méditative, qui vraiment emporte le spectateur dans un univers dans lequel une sorte d'hypnose de la musique et puis de l'œuvre, de cette œuvre qui est quasiment, on pourrait dire, surréaliste avant l'heure. Hein. C'est une œuvre très particulière. On se demande si les personnages sont réels ou bien sont des rêves. Alors voilà, on veut entraîner l'auditeur, le spectateur, dans une sorte de rêve éveillé, quasiment de l'ordre de l'hypnose.
Comment s'est déroulée votre coopération avec les chanteurs et l'orchestre du Théâtre National? Avez-vous trouvé à Prague des artistes déjà préparés à interpréter cette musique d'un style, comme vous dites, très particulier?
C'est un très gros travail. Déjà pour des chanteurs français ou qui en tout cas parlent le français, apprendre Pelléas et Mélisande nécessite souvent un an, voire deux ans. Et c'est vrai que j'aurais souhaité avoir plus de temps avec les chanteurs pour les amener le plus loin possible. Mais ils ont été très courageux, ils ont énormément travaillé, puisque de leur part, cela nécessitait un apprentissage quasi phonétique de la langue française, qu'ils ne parlent pas. Et puis ensuite, j'ai dû leur faire comprendre où était la direction du phrasé et du rythme pour trouver le naturel. Et donc ça a été un gros travail. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux, même parfois en dehors des répétitions, pour les amener le plus possible à la vérité, à la justesse. Et puis quant à l'orchestre, j'ai trouvé un orchestre formidable, parce que très, très souple. Ils n'ont pas l'habitude du tout de jouer cette musique. Je crois qu'ils ne jouent pas beaucoup de musique française, et surtout pas tellement de musique impressionniste. Et donc je leur ai expliqué que c'était une approche de l'écoute et du silence, quasiment plus proche de la musique de chambre que de l'orchestre. Voilà, le rôle du chef, c'est de coordonner tout ça. Mais ils ont été remarquables de réception pour recevoir ça. Et je suis très content du résultat qu'on a obtenu en termes de couleur et de sonorité de l'orchestre.
Vous avez travaillé sur cette production pendant une période où le Théâtre National traversait une crise. Le directeur du théâtre a été relevé de ses fonctions par le ministre de la Culture et les artistes du théâtre organisaient des protestations. Est-ce que tout cela s'est reflété dans le travail sur cette production?
Ça a été surtout difficile pour Rock, qui avait une double casquette sur cette production, puisqu'il est à la fois directeur artistique de l'opéra et metteur en scène de la production. Donc j'ai été, je l'espère, un soutien pour lui et à ses côtés pour tenir la production quand il devait s'absenter pour des rendez-vous ou des urgences liées à cette situation. Et donc il y a eu vraiment une solidarité de tous les artistes pour mener la production le mieux possible à son terme.
Et encore une dernière question, combien de fois vous dirigerez cet opéra à Prague?
Alors pour l'instant, il est prévu que je dirige 4 représentations. Et pourquoi pas d'autres les années suivantes, si on me le demande, ce serait avec plaisir.
On passe à la deuxième partie de notre émission. Retour dans ce magazine historique de Radio Prague en l'an 1212. Il y a 800 ans de cela, le 26 septembre 1212, était publiée la Bulle d'or de Sicile. Il s'agit d'un document essentiel de l'histoire tchèque qui rend le titre de roi de Bohême héréditaire et confère à la Bohême un statut exceptionnel au sein du Saint-Empire romain germanique. À l'occasion du 800e anniversaire de sa publication, la Bulle d'or de Sicile a été exposée du 27 au 30 septembre à Prague par les archives nationales de République tchèque. Jarka Gisubelova pour plus de détails.
Chapitre de l'histoire.
La Bulle d'or, c'est en fait trois chartes écrites sur parchemin d'une belle écriture gothique, scellées chacune par une bulle, soit le nom du sceau en or et en argent. Le texte est rédigé en latin. Les trois documents sont datés du 26 septembre 1212 à Bâle. Dans le premier texte, l'empereur romain germanique désigné Frédéric II confirme le titre royal obtenu en 1198 par le prince de Bohême Przemysl Otakar Ier, le déclarant lui et ses héritiers roi de Bohême. Le deuxième texte de la bulle d'or de Sicile, destiné au margrave de Moravie-Henri, frère de Przemysl Otakar, confirme l'hérédité du titre de margrave pour ses successeurs. Le troisième document confirme les possessions en dehors de la Bohême, dans le pays de Vogtland, nom historique de la région à la limite de la Saxe et de la Bavière, et ailleurs encore. Selon les deux documents, la Bohême et la Moravie sont un pays autonome et indivisible de l'Empire. L'historien Józef Jemlička évoque le contexte historique de la publication du document.
Il y a tout juste 800 ans, le notaire Henricus de Parisius commence à écrire le premier texte de la bulle d'or. Ses protagonistes sont le roi de Sicile, empereur romain germanique désigné, Frédéric II d'une part, et le roi de Bohême, Przemysl Otakar Ier de l'autre. Ce dernier est également le destinataire du texte auquel on va donner le nom de bulle d'or de Sicile. D'or selon le sceau en electrum, soit un alliage d'or et d'argent, et de Sicile selon le lieu d'exercice du pouvoir de Frédéric. Pour ce qui est du roi Przemysl Otakar Ier, il a pris lui-même le titre de troisième roi de Bohême, en latin Tertius Rex Bohemorum.
Pourquoi le troisième roi alors que l'histoire de l'État tchèque est beaucoup plus ancienne? Il faut remonter à l'an 1000, date de création des piliers de l'organisation politique en Europe centrale et de la première vague de couronnement, ainsi que le raconte le professeur Jemlička.
Étienne est sacré premier roi de Hongrie avec une couronne envoyée par le pape Sylvestre II et il parvient en même temps à créer un archevêché à Esztergom. De même, la Pologne réussit à faire un premier pas vers le titre de roi et la fondation de l'archevêché de Gniezno. La Bohême manque cette première vague en raison d'une guerre civile qui fait alors rage dans le pays. Pas d'archevêché ni de royaume. Il n'empêche que pendant les deux siècles suivants, les princes Przemyslides continuent à œuvrer en vue d'obtenir l'attribution de cet honneur. Ainsi, en 1085, Bratislav II reçoit le titre de roi à titre personnel des mains de l'empereur Henri IV. Ce titre n'est que temporaire. Il a un caractère de distinction personnelle accordé à Bratislav II uniquement. Lorsque celui-ci meurt en janvier 1092, ses successeurs vont régner à nouveau en tant que prince.
Il faudra encore plus de 60 ans avant que Vladislav II n'essaye à nouveau d'obtenir la confirmation du titre royal héréditaire. En janvier 1158, à Ratisbonne, il est nommé roi de Bohême par l'empereur romain germanique Frédéric Barberousse. L'espoir d'obtenir le titre de roi grandit. Au la fin du règne de Vladislav II se termine par un échec pour cette branche de la dynastie Przemyslite. La fin du XIIe siècle est marqué par une décadence politique due à une série de querelles de succession. Cependant, un tournant se produit en 1198 avec l'arrivée au pouvoir de Przemysl Otakar Ier sous lequel la couronne devient héréditaire.
Un an à peine après sa seconde arrivée au pouvoir, car il avait été reconnu comme prince suzerain de Bohême dès 1192, Przemysl Otakar Ier se sert de la rivalité entre Othon IV et Philippe de Souabe, qui tous les deux avaient été élus roi des Romains. En 1198, Przemysl Otakar reçoit le titre royal héréditaire de Philippe pour son assistance. Après l'assassinat de Philippe et l'interdiction papale imposée à Othon IV, Przemysl Otakar Ier risque de perdre son privilège. Il change alors de camp quand lui et plusieurs princes convoqués à Nuremberg soutiennent l'élection du jeune roi Frédéric II. C'est ainsi que Przemysław Takar se voit définitivement confirmé dans ses droits par la bulle d'or de Sicile publiée par Frédéric à Bâle le 26 septembre 1212.
Cet acte impérial reconnaît à Przemysław Takar Ier et à ses descendants le titre royal héréditaire. Le roi de Bohême est le premier prince électeur. La bulle d'or de Sicile concède au roi de Bohême les privilèges suivants: réunir au royaume les possessions qui en avaient été détachées, nommer les évêques du royaume, n'avoir à comparaître qu'aux diètes que l'empereur convoquerait à Nuremberg, Bamberg et Merseburg. La bulle n'impose pour seule obligation que de procurer une escorte de 300 cavaliers lors du voyage à Rome de tout empereur allant se faire couronner par le pape. La question que des historiens se posent est de savoir pourquoi Przemysław Takar Ier a tant souhaité obtenir la confirmation du titre de roi héréditaire. Pour Józef Jemlička, le phénomène a deux facettes.
Za prvé to bylo vyzařování na venek.
Tout d'abord, c'est le rayonnement vers l'extérieur. Le titre de roi est incontestablement beaucoup plus important, plus respecté, tout comme le fait d'appartenir à la famille des rois d'Europe. Przemysław Takar Ier en s'est profité dans sa politique dynastique. L'une de ses filles, Margareta, dite Dagmar, est mariée au roi de Danemark, Valdemar II. En outre, Przemysław Takar parvient à établir un lien entre les Przemyslides et la dynastie impériale romaine-germanique. Son fils et futur roi Venceslas II épouse Cunégonde Hohenstaufen, fille de l'empereur Philippe de Souabe. Przemysław Takar Ier a même pensé marier sa deuxième fille Anneschka, la future sainte Agnès de Bohême, à Henri III d'Angleterre, mais l'empereur a mis son veto à ce projet.
Plus d'un siècle après la première bulle d'or de Sicile, le roi de Bohême et empereur romain germanique Charles IV promulgue en 1356 un nouvel acte développant cet acquis. La nouvelle bulle d'or, qui tire son nom de l'acte d'origine, donne à l'institution impériale sa forme définitive et attribue le choix du roi au prince électeur. Désormais, son contenu fera souvent l'objet de débats entre le souverain et les États. Au XIXe siècle, période du réveil national, la bulle d'or divise l'opinion. Certains la vénèrent comme un acquis suprême des Przemyslides sous l'Empire, d'autres en revanche le désapprouvent en tant que symbole de dépendance de la Bohême du voisin allemand. Peu de documents de notre histoire suscitent tant de questions et de contradictions dans leur évaluation, observe pour sa part l'historien Martin Vihoda.
Diskuse v posledních letech ovšem ukázala.
Le débat mené ces dernières années a montré que la bulle d'or peut être abordée sans émotion, de manière objective et impartiale. C'est un document extrêmement intéressant qui a vu le jour dans des circonstances historiques uniques. Durant ses 800 ans d'existence, son destin a reflété des péripéties qui ont créé l'image de notre passé. L'ensemble de privilèges publiés à Bâle est un document qui mérite notre estime et qui invite à réflexion sur notre passé.
Můžeme klást otázky a hledat odpovědi.
Document vieux de 8 siècles, la bulle d'or de Sicile n'est exposée qu'à des occasions exceptionnelles. Sa dernière présentation au public remonte à 11 ans de cela. Elle est conservée dans les archives de la couronne de Bohême, qui a le statut de monument culturel national. «
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet sous forme de podcast en streaming, mais également sous forme d'articles. Je vous rappelle notre adresse internet que vous devez maintenant connaître par cœur, le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.